れたの。
Le monde est à nous.
Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote, j'ai chuchoté.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Bienvenue à toi qui nous écoutes. Dans le monde est à nous, tu es ici chez toi. Alors prends tes aises et monte le son. Imagine, on part ensemble pour un été. On prend tous place à bord de notre minibus.
Rouge, le minibus.
Et chaque dimanche, on se donne rendez-vous même heure, même endroit.
Sur RFI.
Toute l'équipe a pris place sur les banquettes en Sky. Ils sont 20 jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils viennent partager avec toi, avec vous, leur curiosité pour le monde.
Comme ils n'ont pas tous le permis, c'est Victor au volant et deux copilotes.
Salut, moi c'est Pauline.
Salut, moi c'est Alice.
Et tous les trois, on est là pour guider l'équipe dans cette aventure radiophonique.
Mais le monde est à nous, c'est aussi toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Alors accroche ta ceinture, on t'embarque. Aujourd'hui, on parle des migrants, des jeunes migrants. Les flux sont en croissance permanente.
Les flux ?
Oui, pardon, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui traversent chaque jour le globe d'un bout à l'autre. Dans le salon de Pauline, quand nous nous sommes réunis un planisphère à la main pour préparer cette émission, on s'est tous demandé...
Mais quand on dit migrants, on parle de qui ? Des réfugiés, des sans-papiers, des demandeurs d'asile ?
Eh bien moi, tu vois Pauline, je pense à cette famille syrienne qui dort dans une tente sous le métro à La Chapelle à Paris parce qu'elle a fui les bombardements de Homs.
Moi, je pense à ce jeune paysan mauritanien qui traverse le Sahara et la Méditerranée à la recherche d'un avenir meilleur.
Chaque départ a son histoire.
Comprendre, c'est pas simple. Aider, encore moins.
Alors, pour nous guider, on a trouvé deux boussoles.
Hamid Souleyman, 30 ans, il est syrien, artiste plasticien et depuis 5 ans, il vit en France.
Freedom Hospital, c'est le nom de son roman graphique.
Des images de la guerre en Syrie pour comprendre les raisons du départ et les douleurs de l'exil.
Lies Loufoque, 22 ans, travailleur social. Son quotidien, c'est l'aide aux jeunes migrants. Accueillir, trouver un toit, un repas, soulager les plaies.
À vous tous, à toi, où que tu sois, installe-toi. Cette émission est pour toi. Hamid Souleyman, bonjour.
Bonjour.
Donia, Philippine, Kaina, Fanny, salut à vous.
Salut.
Salut. Salut.
Donia, c'est toi qui as pensé inviter Hamid Souleyman ?
Alors oui, Pauline, en fait, je faisais des recherches sur la crise des migrants et je suis tombée sur vous, Hamid Souleyman. Tout de suite, je me suis dit que j'avais trouvé la perle rare. Donc j'ai vu que vous avez fui la Syrie en guerre, traversé l'Égypte en taxi et la Jordanie pour finir votre parcours en France en 2012. Et j'ai surtout vu que vous aviez écrit une BD sur la guerre en Syrie. Et j'avais honnêtement très envie d'en apprendre davantage sur vous. Et toi, Philippine, donc, avant de venir ici, on parlait un peu du livre. Est-ce qu'il y a un passage qui t'a particulièrement marqué ?
Alors oui, c'est un passage qui est au milieu du livre, en fait. On voit un avion de chasse piloté par un pilote de l'armée syrienne qui rentre dans l'image. Et ce pilote, il reçoit dans son casque l'ordre de larguer des missiles, quand bien même il y a des civils qui se trouvent sur la zone. Et du coup, la page suivante, que je trouve assez belle, c'est on voit la ville comme pulvérisée, en fait. On a une espèce d'explosion de petites paillettes noires, et puis après un gros champignon, comme un champignon atomique. Et tout ça, ça se termine dans une autre vignette, où là, on voit un champ de avec notamment des fils électriques arrachés qui viennent strier l'image. Et du coup, ce que je voulais vous demander à Hamid Souleyman, c'est est-ce que vous, c'est des scènes de violence, de chaos que vous avez connues quand vous étiez en Syrie, et est-ce que c'est ça, cette violence, ce chaos qui vous ont poussé à partir ?
En Syrie, moi, j'ai pas beaucoup ça, en fait, parce que moi, j'ai quitté la Syrie 6 mois après le début de la révolution. Du coup, le bombardement aérien a commencé un peu plus tard... Mais ça a devenu une scène quotidienne. Toutes les Syriens qui sont en Syrie le connaissent aujourd'hui.
Et est-ce que du coup vous avez quitté la Syrie quand même à cause de la montée en puissance de cette violence, de la répression contre la révolution ? Est-ce que votre vie était directement menacée par la guerre qui s'annonçait ?
Moi, je me suis fait emprisonner en Syrie et au début de la révolution à cause de participer dans les manifestations et en même temps pour... des dessins que j'ai fait aussi contre le torture au début de la révolution. Du coup, j'étais menacé directement et j'étais obligé à quitter la Syrie directement après que je me suis fait arrêter.
Alors, moi, c'est Kaina. Donc, dans votre BD, il y a 4 personnages qui ont attiré mon attention. Donc, Yasmine, pour son courage et sa persévérance. Elle est pharmacienne et à l'origine du Freedom Hospital. Sophie, qui est franco-syrienne et journaliste, comme moi un jour je l'espère. Elle vient clandestinement en Syrie pour faire un documentaire sur le Freedom Hospital. Il y a aussi Salem, qui est un patient du Freedom Hospital qui a perdu la mémoire et dont on ne s'attend pas au retournement de veste. Et enfin, Abu Taysir qui aide Yasmine et Sophie à entrer dans la ville de Houlia pour rejoindre l'hôpital et qui est responsable de la milice locale de l'armée syrienne libre. Alors moi, ma question, c'était de savoir pourquoi avoir choisi une femme comme personnage principal.
En fait, parce que j'ai inspiré tous les personnages de vraies personnes lesquelles je connais. Et je connaissais plaisir filles qu'ils ont fait des hôpitaux clandestins comme ça en Syrie, des jeunes et des dames qui sont travaillées pour faire un hôpital clandestin ou pour l'aide humanitaire en général. Du coup, je pris cet exemplaire pour parler de ça spécialement.
Donia.
Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur la forme. Et par exemple, donc page 127, on voit un enfant qui se fait soigner. Et en fait, on a comme un zoom progressif sur l'image de l'enfant. Du coup, là, moi, je me suis vraiment imaginé la douleur, surtout qu'on voit vraiment les larmes. Et on imagine le chaos qui règne dans la ville. Et on se sent vraiment proche de lui. Donc à travers ces dessins très expressifs et la couleur, le noir et le blanc, quel était le message que vous vouliez faire passer ?
Ici, j'ai travaillé un peu sur les vidéos YouTube, des fois pendant les dessins. Du coup, j'ai pris quelques vraies vidéos du bombardement. Ça donne aussi un peu de réalité, des images qui sont vraiment vraies. Même que ces genres de vidéos sont bien tournées dans le média, dans le monde entier.
Et pourquoi le noir et blanc et pas de couleur ?
Moi, c'est un style, ça fait longtemps que je dessine noir et blanc. En même temps, je trouve que c'est un peu symbolique de travailler en noir et blanc et ça laisse un peu de possibilité d'imaginer. Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom the key, freedom the key them to life, let's beat them. We them smartphones don't beat them.
C'était Borders de MIA dans Le Monde est à nous.
Alors moi, c'est Fanny. Bonjour.
Bonjour Fanny.
J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs migrants en instance de régularisation. Et ce qui m'avait frappé et attristé en même temps, c'est que je me rendais compte que pour eux, c'est un espèce de prolongement de la violence. C'est-à-dire que la violence, tout doucement, prenait une autre forme. C'était plus la violence du pays, mais maintenant, il y avait la violence administrative, du déracinement, de la migration. Et je me demandais, où est-ce qu'on trouve le bonheur dans cette situation de déracinement, finalement ?
Ça dépend. Moi, personnellement, je le trouve vraiment dans la culture, en fait. D'apprendre une autre langue, de découvrir la culture, des chansons, des cinémas, des livres. Et chaque pays, il y a une culture vraiment unique dans chaque pays, dans le monde. Et ça m'a trop aidé pour être patient, pour finir tous les papiers, apprendre la langue, être motivé à apprendre le français pour pouvoir lire des bandes dessinées françaises, par exemple. Mais moi, la curiosité en général de découvrir des trucs, c'est qui m'a sauvé. En même temps, l'art qui je pouvais m'exprimer facilement parce que tout le monde comprend les dessins. C'est une langue. Je n'ai pas besoin de parler français pour communiquer avec quelqu'un. Je peux le communiquer avec mes dessins.
Donia.
Ami Suleiman, la semaine dernière, on a reçu Ismaël Saïdi, qui est un metteur en scène belge et qui a monté une pièce qui s'appelle Jihad. Il a une question pour vous.
Salut Hamid, moi c'est Ismaël, donc je tiens ton bouquin en main. Je voudrais juste savoir, maintenant que tu l'as fait, maintenant que tu as dessiné, qu'est-ce que ça t'a fait ? Est-ce que ça t'a permis de faire sortir ce qu'il y avait en toi ? Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que l'art t'a permis finalement d'exister grâce à ta BD ?
En fait, oui, Freedom Hospital, c'était un projet vraiment cathartique. Ça m'a aidé de partager avec les gens tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que je voulais raconter. Finalement, ce n'est pas autobiographique, mais c'est inspiré par mon expérience, l'expérience de mes amis, mes proches, tout ça. Du coup, ça m'a trop aidé, minimum, de faire passer un petit message, même si ce n'était pas le but vraiment de la bande dessinée. Mais suivant, si on va parler de la série, on va passer un message, finalement.
Fanny.
Alors, j'ouvre des guillemets. En tant que couple franco-syrien, nous payons tous les jours le prix du terrorisme, du fanatisme, du racisme, des frontières, des armes. Allez vous faire foutre. L'amour gagnera toujours. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un ?
Oui, c'est une photo sur laquelle on vous voit, Amine Souleymane. En fait, vous tenez une pancarte sur laquelle sont écrits les mots que vient de dire Fanny. Et c'est une photo qui a été prise au lendemain des attentats du 13 novembre. Une photo en fait où vous embrassez votre femme avec vos deux passeports syriens et français à la main.
C'est ça. Ça pouvait pas être mieux décrit.
Merci.
Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, Philippine, dans cette photo que tu as vue aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vous ont connu grâce à cette photo, parce qu'il y a quand même plus de 5000 partages. Et je me demandais ce que vous avez vraiment eu envie de dire à travers cette photo.
C'est la réalité, et c'était simple, et clair et réel. Pour ça, les gens ont aimé la photo et partagé la photo, parce qu'il n'y a rien à dire après ce qu'il a écrit dans les photos. Et en même temps, c'est... Aurélie et moi, on ne s'est jamais imaginé que ce sera juste d'être dans une relation. Moi, je suis syrien, elle est française. On n'a pas imaginé toutes les difficultés qui nous attendent juste parce qu'on n'est pas du syrien ou du français ensemble. Et on voulait juste exprimer par rapport de ça.
La légende, c'est « Donnez-nous de la haine, on en fera de l'amour ».
Exactement.
Kaina. Alors Hamid, au début de la BD, Abu Taïsir, qui a fait entrer donc Sophie et Yasmine clandestinement dans la ville de Houria, dit qu'il a un fils, donc Taïsir, donc d'où le Abu Taïsir pour père de Taïsir. Et il demande en rigolant à Sophie « Pourquoi ne pas mettre notre fromage sur ton pain ?» À savoir « Pourquoi ne pas épouser mon fils ?» Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est le fait d'avoir épousé une Française, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir mis votre fromage sur son pain? Et quel regard porte votre entourage sur votre couple?
En fait, nous, dans notre couple, c'est un couple comme toutes les couples, mais c'est toujours les trucs différents. Comment les gens regardent?
Et comment ils vous regardent?
Différemment, toujours. Il y a des préjugés, il y a toujours des stéréotypes, il y a toujours des petits trucs qu'on vit dans notre vie quotidienne.
Et comme quoi, par exemple?
Par exemple, qu'on se mariait coup pour les papiers, même si c'était pas sympa pour moi d'être marié pour les papiers. En fait, c'était un problème énorme. J'ai pas fini mes papiers juste maintenant à cause du mariage parce qu'il s'est trompé avec tous mes papiers. Ça fait un peu de problème toujours au niveau de conversation, tout ça.
Et vos entourages respectifs, ils ont été ouverts ou même avec les gens qui sont proches de vous, il fallait quand même essayer d'ouvrir des portes.
Même les gens qui étaient ouverts, il y avait toujours une petite tension qui se trouve quelque part. Mm-hmm. C'est ça le problème.
Hamid Souleymane est dans Le Monde est à nous.
Et la revue de presse d'aujourd'hui, c'est Oumar et Lou qui reviennent sur une image qui nous a tous marqués cette année.
La photo qui choque le monde. La presse européenne s'empare de ces terribles clichés érigés comme symbole de la crise des migrants. Eylan, 3 ans, avait quitté la Syrie avec ses parents et son grand frère pour fuir la guerre.
Arrêtez-vous un moment et imaginez qu'il s'agit de votre enfant, noyé alors qu'il fuyait la Syrie pour trouver la sécurité en Europe.
Un tweet du représentant de l'ONG Human Rights Watch.
Une photo qui a fait le tour du monde.
Un enfant, Eylan Kurdi.
Ce 2 septembre 2015, l'Occident prenait soudain conscience de la situation des migrants. Le lendemain, les unes des journaux furent consacrées à la photo.
The National titre
La réalité. La plage sur laquelle meurt l'Europe, selon la Stampa. L'enfant de quelqu'un,
affirmait The Independent.
Jusqu'à quand? Demandait El Periodico. Le Monde aussi en a fait sa une, mais a fait une boulette. Sur la page d'en face, s'est glissée une publicité de la marque Gucci. Sur celle-ci, une top modèle, avachie sur une plage, du sable dans les cheveux, se servant de son sac haute couture comme d'un oreiller. Rappelant le petit garçon au t-shirt rouge, la pub a fait scandale.
« Problème de communication »,
dira le chef éditorial.
Moi, perso, quand j'ai vu la photo, j'étais malaise. La première question que je me suis posée, c'était « Est-ce que d'un point de vue moral, je pouvais la regarder? Est-ce que j'étais censée voir ce moment ?»
De nombreux médias se sont posés la même question.
Deux voix se sont opposées.
Finalement, la photo frappante et déstabilisante, a été massivement publiée car jugée nécessaire et alarmante.
Une prise de conscience globale a suivi. En France, de nombreux citoyens ont par exemple proposé leur aide aux réfugiés, que ce soit une chambre pour dormir ou un plat pour un soir.
Une soixantaine d'artistes ont fait part de leur chagrin. À travers une lettre ouverte, ils ont clamé « Plus jamais Daylan sur les plages de Turquie ». Les hommes politiques français ont également utilisé cette photo afin de promouvoir leur vision.
C'est une tragédie, mais c'est aussi une interpellation pour l'Europe,
a déclaré François Hollande. L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait également publié un tweet digne d'un poème.
Son prénom avait des ailes. Son petit cœur a dû battre si fort que les étoiles de mer l'ont emporté sur les rivages de nos consciences.
En fait, j'ai un peu l'impression qu'il fallait attendre cette photo pour éveiller les hommes politiques. Comme s'il fallait arriver à une telle extrémité pour qu'ils réagissent.
Et encore aujourd'hui, des hommages naissent un peu partout. Sur Facebook, nous pouvons trouver des groupes nommés
« Je suis Aylan Kurdi ».
Et à Francfort, un graffiti de 120 mètres carrés représentant le jeune Syrien a été peint début 2016.
Ce tragique événement a cependant apporté une bonne nouvelle à sept membres de la famille d'Aylan qui ont obtenu le droit d'asile au Canada fin novembre.
Mais qui dit buzz
dit aussi polémique.
On peut citer le journal Charlie Hebdo qui a consacré beaucoup d'encre à cet événement.
Si près du but.
Regrettait le dessinateur Riz quelques jours après, avec le sarcasme que les moins avertis ne connaissaient pas. Derrière le dessin de l'enfant, une fausse publicité de McDo vantait deux menus enfants pour le prix d'un. Le hashtag « Je ne suis pas Charlie » était alors apparu sur Twitter.
En janvier, rebelote. Charlie Hebdo imagine ce que serait devenu Aylan s'il avait grandi.
Tripoteur de fesses en Allemagne.
Répond Riz. Le père d'Aylan aurait pleuré en voyant la caricature. La reine de Jordanie avait alors publié sur les réseaux sociaux un nouveau dessin en guise de réponse. Elle imaginait le petit garçon devenir écolier, puis médecin.
Tout le monde a parlé de cette photo. Beaucoup ont parlé d'une nécessité d'agir. On imaginait un après Aylan, une réaction politique face à la crise des migrants. D'ailleurs, la dessinatrice Coco a publié un dessin représentant des petits corps d'enfants empilés les uns sur les autres, le premier étant Aylan. On peut lire en légende
« Le drame continue et tout le monde s'en fout ».
Bah ouais quoi, entre la crue de la Seine et l'Euro 2016, sérieux, les migrants c'est un peu chiant.
Finalement, près d'un an plus tard, que reste-t-il mis à part le vague souvenir d'un t-shirt rouge ?
C'était la revue de presse d'Oumar et de Lou, Philippines.
Moi je la trouve très très puissante cette revue de presse. Vous, Hamid Souleymane, qu'est-ce que ça vous inspire ?
En fait, la photo d'Aylan, c'était... Pour moi, ça représentait plus le problème de demander l'asile ou d'être exilé dans le pays voisin de la Syrie. Et le résultat final de tout ça, c'est que les frontières sont fermées.
Dans votre livre, on peut lire « Deux jours et 472 victimes plus tard ». Et en fait, à chaque fois que vous faites une ellipse temporelle, donc il y a une coupure dans le temps, c'est associé à un décompte des morts. Ce qui m'amène à penser que... Pour vous, peut-être, dessiner, c'est une façon de lutter contre l'oubli pour que tous ces morts, que ce soit les morts de la Révolution ou le petit Aylan, ne passent pas à la trappe ?
À la fois comme ça et à la fois qui, suivant maintenant, quand on parle de la Syrie, des immigrants, et quand on dit qu'il y a 2 millions réfugiés ici, en fait, c'est 2 millions individus, en fait.
Ça déshumanise les chiffres.
Ouais, je voulais rendre hommage à l'individualité, en fait, de chaque Syrien, parce que quand on dit qu'il y a 300 000 morts, c'est énorme.
Hamid Souleymane, vous avez apporté un objet qui parle de vous. Qu'est-ce que c'est ?
Ce n'est pas trop original, mais j'ai ramené ma bande dessinée préférée.
Qui s'appelle ?
Watchmen.
Et ça raconte quoi ?
C'est un super-héros écrit par un auteur anglais qui parle de la guerre du Vietnam et la guerre froide, mais il a changé l'histoire. Du coup, les Américains sont gagnés dans la guerre du Vietnam et qu'il y a un super-héros atomique qui tout le monde le traite comme un dieu. Mais aussi, ce n'est pas un roman comme le super-héros traditionnel Batman. C'est vraiment le côté européen du super-héros, en fait.
Et vous allez pouvoir la relire dans les transports en rentrant chez vous, puisque
ouais,
c'est la fin de l'émission.
Le monde est à nous. Donia, Kaina, Philippine et Fanny vous disent au revoir et merci beaucoup, Hamid Souleymane.
Et restez avec nous. On revient dans 3 minutes. On continue de parler de l'accueil des jeunes migrants avec Elias Loufoque juste après le flash et les nouvelles du monde.
Le monde est à nous.
Pauline Mocor, Alice Milo.
Salut à tous! Le Monde est à nous, c'est tous les dimanches cet été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Dans le studio, Kaina, Philippine, Fanny, Alexandre ont affûté leurs questions.
Ils sont au taquet.
Aujourd'hui, on parle des jeunes migrants. On se demande comment accueillir, comment aider.
Et dans le studio, Lies Loufoque est aussi avec nous. Il est travailleur social et son quotidien, c'est aider les jeunes migrants. Bonjour Lies.
Bonjour.
Bonjour Lies, moi c'est Fanny. Alors Lies, tu as 22 ans et tu es éducateur spécialisé dans une association qui s'occupe des jeunes et des adolescents et puis un peu plus jeunes en difficulté. Là-bas, tu t'occupes notamment des mineurs étrangers isolés. Tu es aussi fervent défenseur des enfants laissés dans l'ombre, donc les enfants placés, évidemment, et puis aussi les mineurs étrangers isolés. On t'a d'ailleurs vu très investi auprès des jeunes migrants finalement expulsés du camp de La Chapelle en juin 2015 à Paris.
Moi, c'est Philippine. Et en 2014, Lies, tu as publié un livre qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers », un livre qui raconte ton parcours en tant qu'enfant de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Dans ce livre, tu racontes l'errance, toi qui étais ballotté de foyer en famille d'accueil. Et puis tu racontes aussi les coups, les médicaments qu'on t'obligeait à prendre, le travail forcé, les humiliations. Et tu dis que pendant toutes ces années, il y a trois choses qui t'ont beaucoup fait souffrir. Le manque d'intimité, l'absence d'une chambre à toi, et puis aussi le fait qu'on prenne jamais en compte ta parole. Finalement, tu dis que tu n'étais qu'un numéro de dossier aux mains de l'État. Alors la première question qu'on voudrait te poser, c'est pourquoi tu as choisi de t'occuper de ces jeunes migrants ? En quelque sorte, on voudrait te demander si tu te retrouves dans leur parcours.
Disons que mon parcours, en tout cas mon parcours personnel, déjà d'enfant placé, a motivé mon choix professionnel. Ça, c'est une évidence. Là où je suis extrêmement impliqué dans mon travail, c'est que contrairement aux mineurs isolés étrangers, moi j'ai eu la chance de naître et d'avoir des papiers. Pour eux, la situation est beaucoup plus catastrophique dans le sens où déjà il y a un manque de reconnaissance officielle de leur statut, malgré le fait qu'ils sont enfants. C'est un statut déjà à part entière. Et la deuxième problématique, c'est que souvent ils ne sont pas pris en charge. Alors après, on peut penser qu'il y a une forme d'incohérence dans mon propos, dans le sens où moi j'ai été pris en charge et ça s'est mal passé. Eux ne le sont pas et ça se passe mal aussi. Et peut-être que s'ils sont pris en charge, ça pourrait aussi mal se passer. Mais justement, tout l'enjeu est là et l'enjeu est justement de ma place, à ma place de travailleur social, d'essayer de faire évoluer les choses, en tout cas dans ce sens-là.
Salut Lies, moi c'est Alexandre. Quand j'ai découvert ton histoire, j'avoue que j'étais assez impressionné. Tu as 22 ans, moi aussi. Pourtant, en voyant tout ce que tu as fait jusque-là, moi je me rends compte qu'à côté, j'ai pas fait grand-chose. Oh. Alors j'ose te poser la question, est-ce que tu es un super-héros ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Mais après, je pense que voilà, j'ai eu une conscience politique très tôt. Et encore une fois, je pense que chaque parcours est différent, chaque vécu est différent et vient motiver aussi des formes d'engagement. Mais c'est un engagement militant avant tout aussi. Et il n'y a pas besoin d'être super-héros pour faire ça.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous.
Mathilde, une copine de Pauline, a travaillé à la CIMAD, une association qui porte assistance aux immigrés. Ce travail, elles en ont souvent parlé quand elles étaient en soirée. Mais cette fois-ci, Pauline a décidé d'aller la voir, micro à la main.
Chaque personne que j'ai pu rencontrer dans toutes mes différentes expériences ont une histoire singulière. Et donc c'était ça, c'était prendre la personne telle qu'elle arrive. Je me souviens très bien de cette personne qui vivait depuis de nombreuses années en France et qui un jour s'est fait interpeller le matin et qui me disait « Mais ils n'ont quand même pas le droit de m'expulser alors que j'ai un appartement, je paye mon loyer, j'ai mes factures, etc. Il faut que je clôture tout ça, il faut que j'aille faire mes bagages, etc. » Il était sorti en tongs acheter une baguette de pain et il se retrouvait là en short et en tongs sans aucune affaire alors qu'il avait construit toute une vie en France. Ces personnes-là se font arrêter et en fait personne ne leur explique ce qui va leur arriver. Et donc le seul moment où on se pose et finalement on leur explique les choses, c'était quand ils arrivaient dans le bureau de la CIMAD. Il y en a qui n'en revenaient pas et du coup ils étaient limite paralysés en fait, qui disaient non mais en fait ça ne va pas arriver, c'est-à-dire qu'ils y croyaient même pas. Et donc on devait faire nous-mêmes parfois un rôle un peu étrange, c'est-à-dire leur dire mais si là ce qui vous arrive c'est ça, vous allez vous faire expulser. Et ils peuvent le faire parce que ils ont votre passeport ou parce que vous allez être présenté au consulat et s'ils vous reconnaissent, ils pourront vous expulser. Donc il faut agir, il faut faire un recours, il faut intenter une action pour essayer de de stopper ce processus. Le temps de prendre conscience de tout ça, et le temps est compté quand ils arrivent en rétention. On a 48 heures pour faire un recours, on a 5 jours pour déposer une demande d'asile, si jamais on craint d'être persécuté dans son pays d'origine. C'était parfois assez difficile d'expliquer aux gens mais leur situation réelle, parce que personne n'avait pris le temps de le faire auparavant. Et ce qui est difficile, c'est qu'on est dans un milieu assez hostile. Hein. Les centres de rétention sont gérés par la police aux frontières. Je veux dire, un centre de rétention, c'est calqué sur le modèle carcéral, donc c'est-à-dire que c'est des cellules avec des lits vissés au sol, une table, c'est une cour, mais en même temps des cours séparées petit à petit, on sépare, on enferme les gens dans des endroits de plus en plus petits, c'est-à-dire qu'on les parque, enfin c'est vraiment... C'est une longue attente, en fait. Quand j'ai commencé en rétention, la durée maximum de rétention, c'était 32 jours. C'est passé à 45 jours. Les gens sont là dans une espèce d'attente, dans un espèce d'entre-deux, dans un non-lieu, finalement. Ni tout à fait expulsés, ni tout à fait en France. Et puis, ils attendent. Et au bout de 45 jours, ils sont libérés dans la même situation dans laquelle ils étaient rentrés. Hein, parce que quand on est libéré, ça ne veut pas dire qu'on est régularisé. Et les centres de rétention sont généralement placés près des aéroports. Et là, le centre de rétention du Mini-Amelot se trouve au bout des pistes de l'aéroport de Roissy. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes, il y avait un avion qui passait au-dessus du centre de rétention. Pour bien leur rappeler quel est le but ultime, finalement, de ce placement.
Et donc, du coup, toi, comment tu as ressenti ça, personnellement, au quotidien? Comment tu vivais ça?
De voir des familles en rétention, de voir des enfants enfermés dans les centres de rétention. D'ailleurs, la France s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet. Ça a été vraiment un moment assez particulier de voir des personnes dans une telle détresse qu'ils en viennent à faire des actes contre leur propre vie. J'ai des personnes qui sont rentrées dans mon bureau, qui s'étaient pendues, des personnes qui se coupaient les veines. On s'attache aux histoires personnelles. Et on s'attache à chaque petite victoire, pas forcément juridique d'ailleurs. Hein, je me rappelle de cette Colombienne qui a eu le statut de réfugiée et qui m'a offert son collier en me disant que c'était le collier qui lui avait porté chance toute sa vie jusqu'au centre de rétention et que maintenant elle n'en avait plus besoin. Elle me le donnait pour que moi-même je puisse avoir de la chance plus tard. Et finalement, ce qu'il faut, c'est donc s'attacher aux événements positifs et donc redonner, même si juridiquement on ne pouvait rien faire pour la personne, de la considérer en tant que telle et de lui redonner une place au sein du monde.
Alexandre, je crois que tu as une question pour Ilyes Loufoque.
Oui, Ilyes, en quoi consiste ton quotidien auprès des jeunes migrants ?
Comment se passe mon quotidien avec les jeunes? Moi, j'ai la chance de travailler dans une structure où les jeunes sont déjà pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est-à-dire que quand ils arrivent en France, il y a eu déjà tout un parcours du combattant avant qu'ils arrivent dans la structure pour laquelle je travaille. Déjà pour diagnostiquer la minorité du jeune, puisqu'on est à cette position quand on arrive en tant que mineur isolé étranger, où on ne te considère pas comme mineur isolé étranger, on parle de présumé mineur isolé étranger. Donc une fois que la minorité est établie, que les voies de recours au niveau du département sont épuisées et que donc on arrive sur une minorité dite définitive, là le jeune est confié à un établissement quand il a de la chance. Donc quand ils ont la chance d'être dans des structures collectives et spécialisées, nous on travaille énormément justement sur la question de la régularisation, puisque malgré le fait qu'ils sont placés au service de l'aide sociale à l'enfance et qu'ils arrivent dans un établissement, il y a aucun statut juridique concret qui fait qu'à la majorité il va pouvoir être reconnu officiellement et légalement comme habitant du territoire.
Fanny ?
Oui, alors parfois il y a des histoires heureuses. Thomas, un des jeunes de l'équipe, a réalisé un reportage en région parisienne dans une famille française qui a accueilli il y a 8 mois Mas, qui est un réfugié qui vient du Bangladesh et qui a fui son pays, entre autres pour raisons politiques. Et vous pouvez d'ailleurs écouter ce reportage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Tumblr, etc. N'hésitez pas. Alors moi, Lies, je me demande si aujourd'hui c'est pas devenu aux citoyens de faire le boulot de l'État.
Si, et on est confronté à la situation ces dernières années de façon flagrante. On a bien vu qu'il y avait un désengagement total de l'État sur la prise en charge des réfugiés à ce moment-là. On avait donc eu des collectifs citoyens, de voisins, de militants politiques, de militants associatifs qui se sont créés, qui se sont retrouvés sur le terrain pour apporter une aide primaire, qui était clairement apporter de la nourriture parce qu'il n'y en avait pas, permettre d'ouvrir ses appartements pour pouvoir prendre une douche. Et à côté, on avait aussi un collectif de juristes, de travailleurs sociaux qui s'est formé pour accompagner aussi en parallèle sur la question des papiers, de la régularisation et aussi de la prise en charge en termes d'hébergement. Mais oui, aujourd'hui, je pense que le citoyen a un rôle extrêmement important à jouer et il le joue déjà, malheureusement, même si moi je suis convaincu que c'est au pouvoir public d'agir sur ces questions-là. En attendant, pour pallier le déficit, c'est clair que le citoyen a son rôle à jouer. Ça, c'est une évidence.
Le monde est à nous.
De wereld is van ons.
De wereld is van ons.
Le monde est à nous. Trois clubs douze.
Le monde est à nous. Aujourd'hui, Lies Loufoque, travailleur social, est avec nous.
Et Calypso et Philippine ont entendu dire qu'à Sciences Po, on accueillait des jeunes migrants.
Ni une, ni deux, elles sont parties y faire un tour.
Faut que je vous l'avoue, ce reportage, j'en ai l'idée grâce à ma mère. Fin 2015, elle me parle d'une initiative à Sciences Po Paris. Des étudiants ont une idée toute simple, mais avec un impact très fort. Proposer des cours de langue gratuits à des demandeurs d'asile. Autant dire que quand on a décidé de faire une émission sur les réfugiés, j'ai immédiatement pensé à aller voir ce qu'il se passait à Sciences Po. Me voilà donc un mardi matin à 8h dans une salle de classe de la prestigieuse institution parisienne. Le prof d'anglais, c'est Georges Ferenczi. Quand il était enfant, il a dû fuir la Hongrie avec ses parents, direction le Canada. Une expérience qu'il partage avec les 5 élèves présents ce jour-là, qui sont tous partis pour sauver leur vie. En France, ils se sentent en sécurité. Mais les conditions de vie sont difficiles, surtout pour ceux qui n'ont pas encore obtenu le statut de réfugié, comme Cindy. Elle a 20 ans, elle est originaire d'Albanie et elle est en France depuis 9 mois.
I'm happy to be in France.
Je suis vraiment heureuse d'être en France parce qu'ici, j'ai la chose la plus importante pour moi, la liberté. La liberté de m'exprimer et la liberté de vivre ma vie comme je l'entends. Mais en même temps, c'est très difficile parce que je suis venue ici toute seule. Ce qui est le plus difficile à supporter pour moi, c'est que je vis actuellement dans un foyer de la Croix-Rouge. C'est vraiment pas une bonne situation parce qu'il y a des puces de lit et donc tous les jours, toutes les nuits, je me fais piquer.
Même dans des conditions extrêmement précaires, pour les jeunes migrants, les études restent une priorité. Ça m'a beaucoup marquée. Et c'est ce qui a poussé Aliette Riche à agir. Aliette est étudiante à Sciences Po et c'est elle qui est à l'origine du projet. Tout a commencé quand elle s'est rendue dans des camps de réfugiés à Paris. Là-bas, beaucoup de jeunes lui ont dit qu'ils voulaient reprendre leurs études.
Ce qui m'a poussée vraiment à agir, et en particulier pour l'enseignement supérieur, c'est que je suis moi-même étudiante et que, bon, je ne veux pas dire que j'ai pu m'identifier à ces personnes parce que je ne connais pas exactement leur parcours et leurs problèmes, mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiante, c'est un sujet qui me tient à cœur et moi, j'aime beaucoup étudier et j'imagine que d'autres gens peuvent partager le même intérêt.
Le problème, c'est que pour les demandeurs d'asile, l'accès à l'université est très compliqué. En plus du problème des papiers, ils n'ont souvent pas le niveau de langue requis pour suivre les cours, d'où l'importance du projet d'Aliette. En plus d'apporter aux élèves un outil essentiel pour étudier ou travailler, ces cours de langue leur permettent de se faire des amis français et donc de s'intégrer.
When I entered into Sciences Po, like it's being from hell to heaven to me.
La première fois que je suis entré à Sciences Po, j'ai eu l'impression de passer de l'enfer au paradis, sincèrement.
Now I have 3-4 friends.
Avant d'étudier à Sciences Po, je n'avais jamais rencontré de français. Maintenant, j'ai 2-3 amis français qui m'aident beaucoup. Par exemple, quand ils vont se promener dans Paris, ils m'emmènent avec eux. Et moi, je suis un étudiant réfugié, mais quand je parle avec eux, ils me traitent comme un étudiant normal, pas comme un réfugié.
Quand ils franchissent les portes de Sciences Po, les jeunes ne sont plus vus comme des migrants, mais comme des étudiants. Et ça change tout. Ils retrouvent leur dignité, et c'est un des objectifs de ces cours de langue. Dès le début, Sciences Po s'est montré favorable au projet. Mais comme personne n'était vraiment en charge de l'accueil des réfugiés, ça a pris du temps. L'administration a quand même fini par s'investir pleinement. Tous les frais sont pris en charge par Sciences Po, et en plus des cours de langue, l'école a mis en place des ateliers de discussion et a ouvert l'accès à la bibliothèque, à des salles informatiques et à des cours de sport. Mais tout n'est pas rose pour autant. Pour Georges Ferenczi, le prof, le principal problème, c'est le manque de volonté commune entre les différents acteurs.
Il n'y a aucun respect de la part des autorités qui n'hésitent pas à caler des rendez-vous avec les étudiants pendant les cours. Par exemple, Il prend rendez-vous avec l'étudiant à 9h, même si l'étudiant explique qu'il a cours de 8 à 10. Du coup, l'étudiant sera obligé de ne pas venir en cours. Il sera absent ou bien il devra partir en avance. S'il y avait une meilleure coordination entre les différents acteurs, les étudiants se sentiraient beaucoup plus soutenus. Un soutien moral, administratif, financier. Et par la même occasion, ils se sentiraient bien plus en confiance.
Donc pour Aliette, le plus gros défi, c'est l'intégration sur le long terme. Fournir aux réfugiés un diplôme reconnu, c'est l'objectif final. Pour cela, elle prévoit dans les mois à venir de mettre en place des cours en ligne. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'année prochaine, les effectifs seront doublés. À partir de septembre, près d'une quarantaine d'élèves réfugiés rejoindront alors les bancs de Sciences Po.
Salut Lies, moi c'est Kaina. Alors je voulais savoir si dans ton association vous proposez un accompagnement au-delà des besoins urgents et si pour toi c'est important de ne pas seulement offrir un toit et des repas aux réfugiés.
Moi je travaille dans un établissement qui est spécifique à la protection de l'enfance. Ça veut dire que je travaille auprès d'enfants, enfin enfants en dessous de moins de 18 ans. On travaille sur différents champs et notamment celui de la scolarisation, puisque là ce qui est intéressant dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est que ce sont déjà des jeunes majeurs qui ont déjà plus de 18 ans, qui ont donc intégré un cursus d'études supérieures. Moi je m'occupe de jeunes qui par exemple sont encore avec un niveau de scolarisation qui est extrêmement bas. Donc on est bien évidemment, comme ils sont changés de pays, obligés de faire en sorte qu'ils acquièrent un minimum au niveau déjà de la langue pour pouvoir communiquer à l'extérieur et en totale autonomie. Donc on a des bénévoles qui viennent proposer des cours de français. Le deuxième volet qui prend énormément de temps, c'est aussi la question de la santé. Moi, je pense aux Afghans, parce que j'en ai pas mal en ce moment, qui, dans leur pays, ont vécu des sévices à répétition, des viols. Donc on a aussi tout ce volet-là qui essaye justement de... Voilà, on essaye de les accompagner du mieux qu'on peut dans un parcours de soins. Et on essaye, bien évidemment, et c'est le troisième volet de notre intervention, de travailler, je le disais tout à l'heure, sur l'aspect juridique, puisque quand on est vraiment diagnostiqué mineur et qu'on est dans un établissement, on est protégé jusqu'à 18 ans, mais passé 18 ans, on retourne à une forme de marginalité qui peut être malheureusement hyper difficile, puisque après 18 ans, tu peux être expulsable.
Philippine.
Et justement, tout à l'heure, tu parlais de mineurs présumés, et ces deux dernières années, tu as participé au comité de pilotage de la réforme sur la protection de l'enfant, et il y a un point qui nous intéresse particulièrement, c'est la question des tests d'âge osseux. Pour la faire courte, c'est des tests que on fait passer aux jeunes migrants quand on n'est pas sûr justement qu'ils soient mineurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été la polémique autour de ces tests d'âge osseux et toi, ta position sur le sujet ?
On a un ministère de la Justice qui aujourd'hui, parce que les départements accueillent de plus en plus de mineurs isolés étrangers, a décidé, il y a déjà quelques années, avec la circulaire Taubira, de mettre en place ce qu'on appelle les tests osseux, donc pour diagnostiquer ou pas de la minorité et de la majorité d'un jeune, ce que j'expliquais tout à l'heure, tout en sachant que ces tests osseux ont été décriés par la communauté scientifique, puisqu'ils présentent une marge d'erreur de 18 mois. Donc tout l'enjeu dans ce projet de loi était d'interdire les tests osseux, de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour évaluer la minorité ou la majorité d'un jeune qu'il fallait continuer à utiliser ce procédé qui était clairement rétrograde en plus.
Fanny ?
Oui, donc tu t'es battue pour cette réforme de loi où il y a des conditions qui pose quand même question. Tu t'es aussi battue pour les migrants de la Chapelle qui ont finalement été expulsés, déplacés, etc. Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas l'impression d'avancer seule dans le désert ?
Sur ce qui touche à la question des mineurs isolés étrangers, moi je pense que la question elle est européenne, puisqu'on a le même problème dans d'autres pays, que ce soit la Suisse, que ce soit, je le disais tout à l'heure, la Belgique. Le problème est vraiment européen. Après, bien sûr qu'on a l'impression parfois de se battre vraiment dans le vide, parce qu'il y a plus de bon sens quand on doit agir. Les politiques n'ont plus de bon sens, alors que pourtant on a énormément de questions qui ne relèvent que de ça, quand il s'agit d'enfants, quand un enfant doit être protégé, voilà, c'est comme ça, de fait. On se bat un peu dans le vent des fois, c'est clair, mais je ne perds pas espoir. Je pense que vraiment, petit à petit, on va arriver à faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y a quelques années de ça, on ne parlait pas des mineurs isolés étrangers. Aujourd'hui, on en parle. On en parle, il n'y a pas une semaine où on n'en parle pas des mineurs isolés étrangers. Donc c'est déjà une évolution conséquente de les rendre visibles. Et je pense que le changement viendra aussi de là, de les rendre visibles et de leur donner la place qu'ils doivent avoir aujourd'hui dans la sphère médiatique et dans la sphère publique.
Le monde est à nous.
Clara est allée dans le parc, à deux pas de chez elle. Elle a rencontré des Chibani qui jouent aux échecs tous les après-midi.
Les Chibani, hein, vous savez, ce sont ces Algériens qui sont venus en France dans les années 50 pour travailler.
C'est la minute de Pépé.
Alors, les parents ou autres, moi c'est des vieux cons la plupart du temps. Ah, tu sais, à mon époque, oui, alors.
mais c'est le présent qui compte pour les jeunes.
Je suis algérien, d'origine algérienne, je suis né en Algérie, sous le drapeau français. Et puis dès que j'ai ouvert mes yeux, il y avait la guerre d'Algérie. Et à l'indépendance, je suis venu en France chercher du travail pour vivre, en 63.
Du coup, vous avez laissé votre famille quand vous êtes parti d'Algérie? Vous avez laissé?
Ah ben oui, j'ai mes frères, mes sœurs qui sont là-bas. J'y vais là-bas en vacances et je reviens après. Parce que j'ai perdu la mentalité de là-bas.
Mais maintenant que vous êtes en France, vous vous sentez plus français ou algérien?
Eh bien, je crois qu'on ne sent ni algérien ni français. C'est là le pire. Et le problème, il est là. Moi, j'ai trois enfants. J'en ai un qui est un docteur. Hein. Bac plus 11 années.
Et vous trouvez qu'il porte encore les traces de votre immigration?
Non, c'est-à-dire quand il fait la demande pour avoir un post-doc, il regarde ses origines. Quand il voit ses origines qui sont d'origine musulmane, un truc comme ça, là, ou arabe, il dit hop, on ne le prend pas.
Mais vous leur donneriez quoi comme conseil à ces jeunes qui arrivent maintenant en France, qui arrivent maintenant...
Les conseils, dès que leur pays se rétablit, ils retournent chez eux, il n'y a que ça. La France, elle est trop petite, hein. Ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Hein. Ben oui, parce que s'ils font des enfants, ils vont regretter après.
Mais ben, vous regrettez?
Ben oui, je regrette d'avoir fait naître mes enfants ici. Ben oui, parce qu'ils sont rejetés ici, ils vont au pays, ils ne sont pas adaptés au pays. Ce n'est pas leur pays, ils ne sont pas nés là-bas.
Kaina.
Alors, Lies, quand il n'y a pas de retour possible au pays, quelles difficultés d'intégration rencontrent les jeunes dont tu t'occupes?
C'est complexe parce que les jeunes dont moi je m'occupe, encore une fois, leur avenir est conditionné à l'obtention de papiers. Donc, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça, voilà. Donc, le fait d'avoir été placé étant mineur ne garantit pas la délivrance de papiers une fois adulte. Donc, du coup, terme d'intégration, ça pose énormément de problèmes, notamment un droit qui est un droit des plus élémentaires, c'est celui de travailler. On a énormément de jeunes qui, étant mineurs, ont pu, dans le cadre d'études, parce qu'on a des partenariats avec des centres de formation ou autres, faire des CAP. Donc plein de CAP, etc. Parfois même, on a certains jeunes qui en ont 4, qui, ouais, c'est pas une blague, qui une fois adultes n'ont pas de papier et donc ne peuvent pas travailler. Et donc toutes les études qui ont été faites auparavant ne servent pas dans la pratique et qui, du jour au lendemain, peuvent aussi être expulsés en fonction du pays d'origine. Donc déjà, ça c'est la première difficulté. On ne s'intègre aujourd'hui que quand on a des papiers. Voilà. Quand on a des papiers, après, c'est les problématiques qu'on rencontre au quotidien, qui sont que quand on a été, et quand on arrive tard en France, que vers 15, 16, 17 ans, il faut rétablir, il faut recréer un lien, des liens sociables, il faut recréer des réseaux entre les personnes pour justement avoir des contacts si on recherche du travail, des contacts pour trouver un logement, enfin ce genre de problématiques. Et après, bien évidemment, de faire front et de rentrer dans les cases du droit commun, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, comme pour n'importe quelle personne, trouver un logement, faire des demandes de logement social quand on n'a pas de travail qui permette d'aller dans le privé, essayer de trouver un taf, essayer de se soigner aussi, parce que même adulte, il y a des séquelles qui restent de l'enfance, et donc il y a aussi tout un travail qui doit être fait sur ce versant-là. Donc après, voilà, c'est toutes les problématiques qu'on rencontre dans le droit commun, clairement.
C'est maintenant le moment de poser la question à 20 ans.
J'ai ma flamme, mes 20 ans. Moi, je les ai vécus dans l'ombre avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde.
Non, je ne regrette rien.
Kaina, c'est à toi.
Lies, dans 20 ans, tu auras 42 ans. Tu t'imagines comment?
Oula.
La question.
Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que c'est tellement instable en ce moment que j'ai du mal à me projeter à 42 ans. Je sais pas. Peut-être encore travailleur social, je l'espère, parce que je pense que voilà, c'est un taf qui est plus qu'un taf et que du coup, c'est un engagement en fait qu'on prend dans sa vie. Peut-être encore travailleur social, en tout cas je l'espère. Si ça m'a pas usé hein, jusque-là, parce que j'en vois beaucoup de la génération au-dessus de moi qui flanche et qui tombe à un certain moment et qui arrête et qui partent. Donc... Mais bon, non, je pense que ouais, toujours travailleur social, après, peut-être créer une structure.
Yes, Loufoque, vous avez apporté un objet qui parle de vous, qu'est-ce que c'est?
Ah, alors ça, c'est un doudou, en fait.
Vous pouvez le secouer un petit peu?
Ouais. C'est un doudou parce que, du coup, c'est assez symbolique pour moi, parce que ce doudou, je l'ai récupéré il y a 3 mois. C'est la seule trace que j'ai de mon enfance. Et donc c'était surréaliste parce que quand j'étais petit, j'étais placé dans une pouponnière et en fait, de fait d'avoir fait pas mal de foyers et de familles d'accueil quand j'étais plus petit, j'ai pas eu de souvenirs de ces périodes-là, que ce soit des photos, des jouets, des peluches, parce que j'ai tout perdu. Donc voilà, j'ai retrouvé des éducatrices qui m'ont connu tout petit et qui avaient gardé en fait dans les archives du foyer, dans mon dossier, dans mon carton, ce doudou et qui me l'ont redonné. Et pour moi, c'est assez important de l'avoir, puisque voilà, c'est la seule trace que je garde de mon enfance. Et justement, je pense que c'est aussi comme ça que je me vois peut-être, pour répondre à la question de tout à l'heure, mais c'est peut-être comme ça aussi que je me vois dans 40 ans, c'est essayer, tous les jeunes qu'on a accompagnés de redonner une part de leur histoire et essayer de retracer avec eux, peut-être ce qu'ils ont oublié et ce qu'ils souhaitent redécouvrir.
En tout cas, on est très contents pour vous que vous ayez retrouvé ce fameux doudou. Juste avant de se quitter, la séance de dédicace, Fanny.
Moi, je fais une dédicace à tous les Belges qui sont assez fous pour nous écouter.
Kaina.
Gros bisous à ma foufou d'amour.
Alexandre.
Gros bisous à tous mes potes de Guerre-Vieille.
Philippine.
À Eric et Ramzy qui m'inspirent toujours autant.
Et mention spéciale pour Victor Hull, notre pilote du tonnerre de l'autre côté de la vitre du studio.
Merci en tout cas beaucoup, Lies, pour ce bout de chemin en notre compagnie.
Merci à vous.
Le Monde est à nous, c'est fini pour aujourd'hui.
Mais on se retrouve la semaine prochaine.
Fanny, Thomas, Calypso, Geneviève, Fabien, Maude, Alexandre et Kaina recevront Christiane Taubira pour parler de discrimination.
Et si tu trouves le temps un peu trop long, sache qu'on reste connecté pour toi en permanence.
Sur Twitter, Facebook et Tumblr.
On est partout.
Tu peux aussi retrouver les coulisses de l'émission, la fabrication des rubriques en images et des petites pépites surprises.
Salut à tous.
Salut.
Salut. Salut.